Vous écoutez RFI, les 9h à Paris, 8h, temps universel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Dans 10 minutes, vous avez la parole et dans une demi-heure, notre débat « Comment mettre fin au fléau de la pollution plastique ?» Chaque année, le monde en produit 460 millions de tonnes. On attend vos réactions. Pourriez-vous vous en passer, vous ? Tout de suite, d'abord, le journal. Bonjour Clotilde Dumay.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Après la victoire électorale, la victoire judiciaire pour Donald Trump aux États-Unis. Le président élu n'est plus poursuivi au niveau fédéral pour des soupçons de tentatives illégales d'inversion des résultat de l'élection de 2020. À qui sera maire de Paris en 2026? La bataille est officiellement ouverte alors qu'Anne Hidalgo annonce ne pas être candidate à un troisième mandat. Pour ou contre le traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, l'Assemblée nationale donne son avis cet après-midi alors que les agriculteurs français entament une deuxième semaine de mobilisation. Toutes les étoiles s'alignent donc pour Donald Trump, moins d'un mois après sa victoire à la présidentielle américaine. La justice fédérale abandonne les poursuites qui le visaient pour des soupçons d'ingérence dans les résultats de l'élection de 2020. Victoire totale donc pour le président élu. Les précisions depuis Washington de Guillaume Nodin.
C'était l'affaire judiciaire la plus grave à laquelle était confronté Donald Trump. Il y était question de son plan pour empêcher la certification de l'élection de Joe Biden en 2020, ainsi que de son rôle dans la préparation de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Le procureur spécial Jack Smith a demandé lui-même l'annulation des charges en vertu de la politique du département de la justice de ne pas poursuivre les présidents en exercice. La juge en charge de l'affaire accède à la demande en laissant la porte ouverte à une éventuelle mais improbable relance de l'affaire quand Donald Trump ne sera plus président. Quand Trump revendique une victoire totale, il n'a pas tort. Au cours de la procédure, le président a aussi gagné la reconnaissance par la Cour suprême d'une immunité présidentielle qui n'existait pas avant. Le procureur demande aussi l'abandon des poursuites dans le dossier des documents emportés puis saisis à Mar-a-Lago. L'affaire est déjà suspendue par une décision d'une juge nommée par Donald Trump. Elle fait l'objet d'un appel, mais il n'y a aucune raison que l'issue soit différente. En fin de semaine dernière, Donald Trump avait déjà obtenu la suspension indéfinie de sa condamnation dans l'affaire Stormy Daniels. Quant au dossier sur sa tentative de renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie, il n'y a même pas de procureur en charge du dossier. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et la cérémonie d'investiture de Donald Trump, ce sera le 20 janvier prochain. La Maison-Blanche a fait savoir que Joe Biden serait présent. Donald Trump a d'ailleurs annoncé les premières mesures économiques qu'il allait prendre dès son entrée en fonction. Il veut fixer des droits de douane à 25% pour les produits venant du Canada et du Mexique. Et il veut les augmenter de 10% en plus de ce qui existe déjà pour les produits chinois. Un espoir de cesser le feu dans la guerre au Liban. Israël doit se prononcer aujourd'hui sur un projet d'accord qui prévoirait une trêve de 60 jours avec le Hezbollah. Les négociations ont avancé significativement, selon la présidence française. Un accord est proche, d'après les États-Unis. Elle ne sera pas candidate pour un troisième mandat à la mairie de Paris en 2026. Anne Hidalgo l'annonce ce matin dans le journal Le Monde. À moins d'un an et demi des municipales, c'est donc la fin d'un suspense. Valérie Gasse, c'est le début d'une bataille pour sa succession.
Oui, Clotilde, Anne Hidalgo a pris sa décision. Cette fois-ci, elle tourne la page de la mairie de Paris, deux fois élue en 2014 et en 2020. Elle estime que ça suffit et qu'il lui faut passer la main. À qui ? Un inconnu du grand public, mais un tout proche de la maire depuis de nombreuses années, Rémi Féraud, sénateur de Paris, dont elle vante les mérites et la capacité à faire le rassemblement nécessaire avec les écologistes et les communistes. Anne Hidalgo choisit donc Rémi Féraud contre Emmanuel Grégoire, son ancien premier adjoint, aujourd'hui député, avec lequel ses relations se sont détériorées et qui a déjà fait acte de candidature pour 2026. La bataille à gauche pour Paris est donc officiellement lancée. Mais Anne Hidalgo reste prudente en affirmant qu'elle n'impose rien, que ce sont les militants socialistes parisiens qui trancheront. Anne Hidalgo évoque aussi son avenir personnel. « Je serai maire jusqu'au dernier jour », dit-elle. Et après, elle continuera la politique, mais n'envisage pas d'être à nouveau candidate à la présidentielle de 2027. Son objectif, faire émerger une force social-démocrate et écologiste avec Raphaël Glucksmann.
Décision de Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. Des pneus et du fumier déversés ou bien murs construits devant certaines préfectures. Un rassemblement prévu aujourd'hui devant le Parlement européen. Les agriculteurs français poursuivent leur mobilisation. De nouvelles actions sont prévues cette semaine pour dénoncer les règles qui entravent leur métier, mais aussi le traité de libre-échange que l'Union européenne négocie avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Assemblée nationale va d'ailleurs débattre et voter sur ce traité cet après-midi. C'est important pour Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, mais ce n'est que le début.
Ce qu'on voit avec ce vote à l'Assemblée, c'est qu'enfin, il y ait un débat démocratique sur le sujet qui engage l'avenir de l'agriculture, mais globalement l'avenir de la société, quel modèle de commerce on veut. Et c'est ça qui est important. Donc ce vote aujourd'hui, il est très important, mais ce n'est pas l'aboutissement de la démarche. Il faut que, fort de ce vote, si c'est un refus, le gouvernement aille à Bruxelles et obtienne l'arrêt des négociations et d'enterrer cet accord. Il en va de la survie d'un certain nombre de paysannes, de paysans, de fermes dans notre pays, parce que signer des accords de libre-échange, c'est de concurrence tirée vers le bas, c'est l'inverse de ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est de prix garantis, de revenus et de faire face aux aléas climatiques et sanitaires et protéger notre santé.
Laurence Marandola de la Confédération paysanne interrogée par Anne Verdaguet. Rendez-vous important au Mozambique. Les quatre candidats à l'élection présidentielle du 9 octobre doivent rencontrer le président Felipe Nyusi. C'est lui qui a convoqué cette réunion. Elle doit permettre de trouver une solution pour sortir de la crise alors que la contestation électorale se poursuit dans le pays à l'appel du candidat de l'opposition Venancio Mondlane. Mais beaucoup de doutes persistent, Gaël Lalex, sur la tenue de cette rencontre.
Sur le principe, ils sont tous d'accord pour dialoguer, mais chacun a ses conditions. Daniel Chapeau, candidat du Frelimo, parti au pouvoir depuis l'indépendance et vainqueur de la présidentielle selon la commission électorale, a été le dernier à répondre. Un simple communiqué du parti a confirmé hier sa présence et son engagement pour la stabilité politique du pays. Cette rencontre n'est pas pour le réjouir, car les trois candidats de l'opposition sont d'accord sur un point. Il faudra discuter de l'annulation des élections générales du 9 octobre qu'ils estiment irrégulières. Lutero Simangu, le candidat du mouvement démocratique du Mozambique, et Osufo Momad de la RENAMO, les deux principaux partis d'opposition, en ont fait une condition sine qua non. Ce dernier exige aussi la présence des quatre candidats. Or, celle de Venancio Mondlane, candidat indépendant, semble incertaine. Vendredi, le leader des protestations post-électorales a posé ses conditions, notamment la fin des poursuites judiciaires à son encontre, des indemnisations pour les victimes de la répression policière et une participation en visioconférence. La présidence ne s'est pas encore exprimée sur ses exigences. La rencontre est prévue à 16h. Gaël Alex Nairobi, RFI.
Il est 8h07 en temps universel. 29 minutes pour se plonger dans la réalité migratoire. Aux îles Canaries, l'acteur sénégalais Timbo Samb a dévoilé le documentaire dans lequel il tient le rôle principal et qui raconte son retour dans son village natal, village qu'il a quitté 15 ans plus tôt pour rejoindre l'archipel espagnol à la recherche d'une vie meilleure. Une projection à laquelle ont notamment assisté de jeunes migrants. Reportage à Las Palmas de Nicolas Kirilovitz.
Et des applaudissements en forme d'ovation pour Timbo Samb, qui se dévoile plus que jamais dans ce documentaire à Kayar, son village d'enfance. On le suit avec ses proches, sa famille et les nombreuses questions qui le tourmentent. Pour l'acteur sénégalais arrivé aux îles Canaries en 2006, présenter ce court-métrage dans l'archipel, c'est avant tout l'occasion de transmettre un message aux jeunes venus l'écouter et arriver comme lui dans des embarcations normalement destinées à la pêche.
Ce que je leur dis, c'est que l'Espagne, ça n'est pas ce que l'on croit. Quand on vient ici, il faut étudier et surtout se former et faire tout ce qui est possible pour savoir que l'on peut se choisir un avenir.
Un message entendu notamment par Youssou, un jeune Sénégalais de 17 ans, originaire lui aussi de Kayar. S'il rêve de réussir comme Timbo Samb, Youssou n'en oublie pas pour autant l'essentiel pour lui, sa famille.
Oui, je l'aime beaucoup.
Je l'aime beaucoup. C'est mon rêve de faire comme ça, comme Timbo. Actuellement, je suis en train d'apprendre l'espagnol, mais dans le futur, je veux travailler pour aider ma famille au Sénégal aussi.
Et depuis le début de l'année, plus de 6000 Sénégalais ont réussi la traversée vers les Canaries, une tendance à la hausse qui ne s'inversera qu'avec un changement de paradigme entre l'Afrique et l'Europe, estime Timbo Samb.
S'ils veulent que nous arrêtions de venir ici, ils doivent alors cesser de voler nos ressources et de signer des accords avec des gouvernements corrompus.
Un message fort que l'acteur espère porter lors de la prochaine cérémonie des Goya en remportant le prix de sa catégorie le 8 février prochain. Et Nicolas Kirilovitz, Las Palmas de Gran Canaria, RFI.
Et puis les gouttes de Dieu récompensées aux International Emmy Awards, la fiction franco-japonaise a reçu le prix de la meilleure série dramatique au cours de cette cérémonie consacrée aux productions télévisées non américaines. Pour le moment, il est 9h10 à Paris et la suite sur RFI, c'est Appel sur l'actualité avec Nathalie Amar.
Merci Clotilde Dumay et à tout à l'heure.